Préparer et présenter cette émission par la communauté Israël Makepe au rythme de Dieu, c'est une émission qui vous exhorte, qui vous encourage, qui également vous éclaire, vous apporte quelques lumières sur la foi chrétienne afin que tout homme soit préparé et prêt à toute bonne œuvre comme la Bible déclare. Comment peut-on vivre une vie de consécration? Ce soir, nous en parlons sur au rythme de Dieu, sur ce plateau. La prise de son Désiré Chouya sur ce plateau. Nos invités habituels, Noé, bonsoir.
Bonsoir Tanguy, bonsoir au pasteur Combe et bonsoir à tous nos aimables auditeurs qui écoute tous les mardis entre 20h30 et 21h30. Soyez grandement encouragés ce matin. Ce soir, je voulais dire que le Seigneur qui est fidèle lui-même nous remplisse.
Amen. Véritablement, la grâce de Dieu vous accompagne, chers amis auditeurs, vous fidèles auditeurs qui chaque mardi prenez la peine de vous connecter et de suivre l'évolution de cette émission. En face de Noé, nous avons le pasteur Emmanuel Koum. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir à tous les auditeurs et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'être avec nous une fois encore ce soir.
Consécration, comment peut-on vivre une vie de consécration? C'est ce dont nous allons parler ce soir, chers amis auditeurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à écouter ces airs d'adoration et de contemplation du Seigneur afin que véritablement nous nous approchions tous ensemble au devant du trône de sa gloire. Dieu vous bénisse.
Qui nous appelle et qui veut que nous l'adorions en esprit et en vérité, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, que tout ce qui est en moi glorifie le Seigneur et que tout ce qui est en vous glorifie le Seigneur, que dans chacune de nos attitudes, dans chacune de nos paroles, dans chacune de nos pensées, que la gloire de Dieu soit révélée. C'est l'appel du Seigneur pour notre vie. Il dit que quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Rendons gloire au Seigneur qui veut que nous fassions tout en son nom, que nous aimions de l'amour de Jésus, que nous parlons comme Jésus, que nous marchions comme Jésus. Alors tu peux parler au Seigneur ce soir pour lui dire que tout ton être, toute ta personne doit lui être consacrée, doit lui être soumise. Seigneur, nous te donnons la gloire ce soir, parce que c'est toi qui règnes dans nos cœurs, c'est toi qui règnes dans nos vies. Tu règnes au-dessus de chacun de nos mouvements, au-dessus de chacune de nos aspirations. Tu règnes au-dessus de chacune de nos décisions, de chacune de nos émotions. Tu règnes véritablement, Seigneur. Ce soir, nous t'intronisons encore, afin que tu règnes sur nos vies, afin que, Seigneur notre Dieu, chaque jour, ceux qui marchent à côté de nous ressentent le parfum de ta présence, afin que chaque personne qui s'approche de nous ressente ta gloire dans nos vies, parce que, notre Dieu, nous aurons marché dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, dans la joie et dans l'allégresse, nous nous approchons de toi. Toi qui comble nos cœurs, toi qui comble nos vies, toi qui chaque jour nous révèle ta grandeur et ta puissance, toi qui chaque jour nous montre que tu es l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu devant qui tout genou fléchit. Seigneur, laisse-nous t'adorer encore ce soir. Te dis combien tu es merveilleux, te dis combien tu es unique, unique dans tout ce que tu fais. Tes œuvres sont sans nombre, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous pouvons les compter tellement elles sont nombreuses. Seigneur, même les sables au bord de la mer ne peuvent être comparés à tout ce que tu fais pour nous. si ces grains de sable sont incomptables, combien encore incomptable ce que toi tu fais dans nos vies, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Seigneur, reçois la gloire, reçois encore la majesté ce soir, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Nous élevons nos voix pour dire ta dignité et ta grandeur. Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ces instants. Ta présence est avec nous, ta présence est au milieu de nous. Et ta grâce nous accompagne et nous remplit. Seigneur, il n'y a point de semblable à toi. Merci parce qu'une fois encore, nous pouvons être dans une communion avec toi. Tout notre cœur, nous te glorifions.
Oui,
tout notre cœur, nous t'exaltons.
Oui.
Et tout notre cœur, nous te célébrons. Seigneur, au-delà de nos douleurs, de nos craintes, toi, tu es là, le Seigneur de justice et de vérité. Et ta grâce nous accompagne en toutes choses. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Oui. Souhaitons encore une fois de vous saluer, vous qui venez de nous rejoindre sur ce plateau, sur la fréquence de Ville à 107.8, la fréquence de Ville à Radio Vie Nouvelle. Vous êtes à l'écoute au rythme de Dieu depuis bientôt 10 minutes. Ce soir, nous parlons d'un thème bien précis, la consécration. Comment peut-on vivre une vie de consécration? Nous bénissons le Seigneur qui, ce soir encore, nous accorde dans sa fidélité de vous savoir si nombreux à l'écoute de cette émission de ce jour. La consécration, donc, nous en parlons ce soir, c'est le fait ou alors une situation entière de dépendance, une situation entière dans laquelle nous nous réservons entièrement pour quelque chose ou alors pour quelqu'un. Et si ce soir nous en parlons, c'est aussi et simplement parce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tout chrétien est appelé à vivre une vie entièrement dédiée à son Seigneur et à son Sauveur. La Bible nous dit que Christ a donné sa vie pour nous, pour nous sauver. Et en retour, la manifestation de cet amour voudrait que nous puissions également, en reconnaissance, vivre une vie qui le glorifie. Comment peut-on vivre une vie de consécration? Déjà, Noé, ce soir, parlant de consécration, on se dit certainement que non seulement c'est une question importante, mais également c'est une question qui nous permet de pouvoir nous déterminer, de nous distinguer hein, de l'ensemble de ce qui est autour de nous afin d'être véritablement résolu et carrément appartenir à celui dont nous sommes les serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ.
Il faut le dire, on dit la consécration du chrétien, bon, c'est vrai qu'on va en parler, mais en fait, on ne devrait pas en parler. Mm-hmm. C'est ce que je pense, parce que on en parle parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Parce que quand on parle de consécration, en tant que chrétien, la consécration du chrétien, c'est qu'il est pour Dieu.
Mm-hmm. Il est réservé.
Il est réservé à Dieu. Mais aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas réservés à Dieu, nous ne vivons pas pour Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul va dire que dans tout ce que nous faisons, que nous mangeons, que nous buvions, que nous faisons tout pour la gloire de Dieu,
Ça veut dire que ma vie dans chacune des choses, même ma façon de marcher, mm-hmm. c'est pour la gloire de Dieu. Ma façon de parler, même quand je fréquente, même quand je mange, même quand je fais d'aller, toute ma vie au quotidien, c'est pour Dieu. Et dans chacune des choses, je me dis, ce que je fais, c'est pour Dieu. Je ne le fais pas pour un homme, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour Dieu. Et si je regarde à Dieu, si je regarde à l'objectif qui est de glorifier Dieu, ma façon de faire va être différente. Mais aujourd'hui, parce que on est divisé entre le service de Dieu et notre service personnel, on arrive à confondre un peu notre façon de marcher.
Et ce qui nous amène très souvent à vivre dans le monde, à vivre au milieu du monde, sans toutefois poser une différence nette, une différence significative. Pourtant, Jésus-Christ l'a dit, Paul l'a dit aux Corinthiens, pasteur Emmanuel Combes, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, une nouveauté de vie, parce qu'à la base, cette transformation s'est opérée et qui nous appelle, de toute évidence, à faire la différence parce que nous appartenons à Jésus-Christ.
Oui, comme tu dis, c'est une évidence. Nous sommes différents. Nous ne faisons pas la différence, mais nous sommes différents. Nous sommes des créatures nouvelles qui sont totalement différentes. Autant un bœuf est différent d'un porc, autant un homme est différent d'une femme,
autant un chrétien.
Dans la biologie, autant un chrétien est différent d'un mondain. Dès que tu vois le chrétien, tu le distingues du mondain. Dans sa nourriture, dans sa façon de manger, de s'habiller, de parler, de tout faire. C'est-à-dire que la différence est nette. Ce n'est pas que je fais un effort pour le faire, ou bien je prie Dieu que je puisse le faire. Si je suis devenu chrétien, alors je suis chrétien. Si je ne suis pas chrétien, alors je ne suis pas. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Jésus va encore faire cette démonstration pour prouver que le manguier n'est pas l'oranger. Donc le chrétien n'est pas le mondain. Donc on est vraiment une nouvelle créature.
Absolument une nouvelle créature. Noé, on se rend compte que, très souvent que la Bible le dit, Jésus l'a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais ce qui en sort. Et aujourd'hui, ce refrain est utilisé un peu à tous égards et dans tous les sens, Dieu regarde au cœur, comme pour dire que ce qui paraît n'est pas important, mais c'est l'attitude du cœur. Est-ce que aujourd'hui, n'est-ce pas une sorte de refuge, une sorte d'alibi qui est ainsi énoncé, présenté par ceux qui ne parviennent pas à faire la différence?
Je dis qu'il y a un problème, il y a un problème d'identité dans notre façon de marcher. C'est-à-dire que si tu as la connaissance de qui tu es réellement et si tu as choisi d'être dans cette identité-là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que le Seigneur, j'étais en train de chercher la référence dans la première épître de Pierre, où le Seigneur nous dit expressément que nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes une race élue. C'est-à-dire, quand tu sais ce que le Seigneur déclare pour ta propre vie, il te dit que tu es une nation sainte. Je ne sais pas, c'est un peu comme si tu es président de la République ou tu es fils de président et tu ignores que tu es fils de président. Parce que si tu as la conscience de ce que tu es fils de président, il y a des endroits où tu n'iras pas te mettre. Tu ne vas pas t'asseoir au bar. Il y a des choses que ta nature ou alors ton statut t'impose à ne pas faire. Mais aujourd'hui, parce que nous n'avons pas la connaissance de notre identité, ou alors nous ne voulons pas accepter de vivre cette identité-là, nous sommes obligés de nous mélanger, permettez l'expression, avec le monde. C'est-à-dire que...
De nous confondre.
De nous confondre avec le monde. On ne fait plus une véritable démarcation, de telle sorte qu'on puisse dire que, parce que celui-ci est chrétien, vous pouvez être sûr qu'il ne fera jamais ça.
Mais attends, je vais à ta suite vous dire que... Ce n'est pas un problème de... Si tu n'aimes pas le macabre et qu'on te le donne, tu ne le mangeras pas.
Absolument pas.
Celui qui fait une allergie à quelque chose, dès qu'on lui donne cette chose, ça se voit immédiatement à son corps. C'est pour dire que quand tu es chrétien, tu ne t'assois pas là-bas. Mmh. Tu ne fais pas un effort pour ne pas aller t'asseoir là-bas. Tu ne t'assois pas là-bas.
C'est contre ta c'est donc, nature, c'est contre,
c'est contre
ta
nature, c'est contre ta personne. C'est-à-dire que tu as une répulsion logique et automatique de ces choses. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Tous ceux qui aiment ces choses doivent se poser des questions par rapport à leur vie et à leur marche. Ce matin, quand je rappelais dans la méditation familiale que ce n'est pas parce que nous prions partout que je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas, qu'on a le statut d'enfant de Dieu. Il y a des païens qui ne commettent pas d'adultère.
Absolument.
Il y a des païens qui ne volent pas. Il y a des païens qui ne boivent pas. Notre nature n'est pas dans la loi, mais dans une vie que Dieu nous a donnée et qui ne nous permet pas d'être dans un milieu. C'est notre vie qui ne nous permet pas d'être dans ce milieu, qui ne nous permet pas de vivre certaines choses. Et quand nous la vivons, nous les vivons, ça veut dire que nous n'avons pas cette nature-là. Puisque cette nature n'accepterait pas ça. Et ça ne dialogue même pas. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais l'allergie au macabre, tu ne dialogues pas avec ça. Tu ne dialogues pas avec ça.
Ça, c'est très important de le souligner. C'est notre vie qui nous amène à fuir ces choses. Et non pas le fait de fuir ces choses qui prouve que ce que nous sommes. Puisque même ceux qui ne sont pas chrétiens ne le font pas absolument.
Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont plus honnêtes que des chrétiens.
Absolument.
Il y en a plein.
Pour en témoigner, j'ai eu des difficultés à prêcher l'évangile à mon père parce que c'était un homme avec une vie assez réglée, assez droite. Pour lui prêcher l'évangile, si tu commençais à lui dire il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas voler son prochain, il allait te dire mon frère,
si ce n'est que ça.
Si ce n'est que ça, moi je ne sais pas ce que tu veux. Mais, et avec ce genre de personnes, il est encore plus difficile de leur parler de l'évangile parce que. Ils vont te demander à la fin, qu'est-ce que tu veux à quoi
tout ce qui fait le bien, il fait tout ce qui est bien vu, et ainsi de suite.
Donc, pour dire que, comme le pasteur Koum le disait, c'est pas la rigueur de la loi ou de la marche morale qui fait de nous ce que nous sommes. Nous ne vivons pas parce qu'il y a une loi qui impose des choses que nous devons suivre. Nous vivons parce que c'est notre style de vie à nous. Mm-hmm. C'est le style de vie qui sied.
C'est notre être.
C'est notre
tout
être. C'est-à-dire que c'est ce à quoi je prends plaisir. La Bible dit que je prends plaisir à tes commandements. C'est comme du miel.
C'est ce que je suis.
Nous bénissons le Seigneur, chers amis auditeurs, pour ces moments. Vous êtes à l'écoute au rythme de Dieu, c'est sur la fréquence de vie. À 107.8, la radio Vie Nouvelle. Comment peut-on vivre une vie de consécration? Nous allons en parler tout à l'heure avec le pasteur Emmanuel Coupe, mais déjà nous vous invitons à écouter.
Seigneur, je veux que mon cœur soit toujours comme ça.
Comme celui qui te plaise à tout moment. C'est le cri de cœur ici lancé par le groupe Fadiez. Nous bénissons le Seigneur qui ce soir encore nous accorde cette grâce, cette faveur de vous entretenir ce soir, chers amis auditeurs. Comment peut-on vivre une vie de consécration? Nous allons immédiatement parler avec le pasteur Emmanuel Koum. Une fois de plus, bonsoir pasteur.
Bonsoir, bonsoir Noé, encore une fois, bonsoir Guy et à tous les auditeurs. Bien, je pense que notre introduction doit nous amener à nous rendre compte qu'il y a très peu de mise à part. Parce que quand on dit saint, on dit mise à part. Mmh. Et quand on dit mise à part, on est vraiment mise à part. Mise à part par rapport au monde, le souci du monde, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas suivre la mode. Parce qu'on n'a aucune mode qui nous entraînerait au ciel. Et puis, notre vie avec Dieu, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie du monde. Donc, vivre une vie de consécration, comme disait Noé, nous sommes consacrés au Seigneur. En fait, le Seigneur nous a consacrés à lui. Donc, nous ne pouvons être que le reflet de ce que Dieu a fait de nous. Mais malheureusement, il faut voir comment sont beaucoup de chrétiens. Parce que je ne veux pas dire que tous sont comme ça. Il y a vraiment quelques personnes qui sont mises à part pour le Seigneur. Et pour introduire notre débat, je veux un peu lire dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8, où l'apôtre Paul dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que ça, c'est la conscience, quelqu'un qui est conscient du bienfait. Quelqu'un qui est conscient d'une vie de succès. Beaucoup de gens pourront dire, ça, c'est de l'orgueil. Mais non, ça, l'apôtre Paul il a un témoignage intérieur de l'appréciation de Dieu dans sa vie. Et si tu es arrivé à ce niveau où tu as le témoignage intérieur de l'appréciation de Dieu dans ta vie, alors c'est que tu es vraiment mis à part, c'est que tu es vraiment consacré, tu as été vraiment consacré au Seigneur. Mais ce témoignage, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas, parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur vie est couronnée, est une couronne de la gloire de Dieu. Car un travail bien fait ne peut être que couronné. Vous avez bien aimé cette attitude de Paul, cette certitude de Paul, se repose dans ce que l'apôtre Paul a vécu l'excellence avec le Seigneur. D'ailleurs, nous pouvons le retrouver quand il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce la faim, la nudité? Quand l'apôtre Paul dit « Persécuté, nous bénissons, maltraité, nous parlons de bonté. » Donc quand nous voyons l'apôtre Paul dans son ensemble, ce qui était pour moi comme un gain, je regarde comme la boue. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quand on comprend les confessions de l'apôtre Paul, nous nous rendons compte en réalité que l'apôtre Paul a vécu une vie d'excellence. Revenons un peu dans ses confessions. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je regarde comme la boue. Il faut voir beaucoup de chrétiens dans ces confessions-là. Si on revient encore dans notre confession, bénissez, persécutez, nous bénissons. Il faut encore le revoir dans les vies des chrétiens, dans les églises, de ceux qui s'appellent chrétiens, pour être sûr que c'est ce qu'il dit. L'apôtre Paul nous montre dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27, que nous allons lire.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié.
L'apôtre Paul nous démontre ici que les hommes de la terre, hein, quand ils jeûnent, quand ils ne mangent pas, je prends un boxeur, il doit toujours garder un certain poids. Donc, il est limité dans sa nourriture, il peut même passer beaucoup de temps sans pouvoir connaître une femme. Et c'est la même chose avec des coureurs et tout. Donc, ils sont dans l'abstinence pour les choses de la terre. Et quand on se rend compte que des chrétiens jeûnent, eux aussi, pour les choses de la terre. pour les mêmes choses de la terre, pour pouvoir gagner les choses de la terre. On se demande en réalité ce qui se passe. Mais l'apôtre Paul nous semble que toute la vie du chrétien est une vie de compétition. Une vie de compétition individuelle et non collective. Et là, c'est le problème du meilleur. C'est le problème du meilleur. Dans la vie chrétienne, c'est le problème du meilleur. C'est le problème du travail bien fait. C'est le problème de celui qui a marché avec le Seigneur comme le voudrait le Seigneur. Ce n'est pas un problème de vie collective. Paul nous enseigne parallèlement dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 3 à 6.
2 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 6. « Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. Le cultivateur qui s'est chargé du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. »
De ce côté, l'apôtre Paul nous démontre que le succès dans nos multiples épreuves, dans nos multiples luttes, dépend de la manière dont on travaille. Donc nous avons d'un côté l'apôtre Paul qui nous démontre que nous sommes dans une compétition et maintenant cette compétition dépend de la manière dont nous prenons les choses, de la manière avec laquelle nous faisons les choses. Bien-aimés, maintenant, nous voulons vous parler de la manière de vivre une vie de consécration, telle que l'apôtre Paul nous l'a introduite tout à l'heure. Nous allons reprendre ces deux chapitres, ces deux versets, ces deux passages. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Quand l'apôtre Paul dit au verset 25 et 26 de 1 Corinthiens 9, la Bible nous enseigne que, versets 25 et 26, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, dont je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe non pas comme battant de l'air. L'apôtre Paul dit, je ne cours non pas comme à l'aventure. Il faut savoir ce qu'on veut, se fixer un objectif. En fait, pourquoi je suis devenu chrétien? C'est ça la question. Et la réponse, c'est pour la vie éternelle. Je suis devenu chrétien parce que Dieu m'a mis à part pour la vie éternelle. Beaucoup sont devenus chrétiens pour les bénédictions terrestres. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vivre une vie de consécration. Parce qu'ils sont devenus chrétiens, en fait, pour les bénédictions terrestres. Parce qu'ils sont fils d'Abraham, ils doivent hériter de toutes les bénédictions, ils seront la tête et non la queue. Or, Jésus-Christ dit, nous a démontré que nous sommes devenus enfants de Dieu pour la vie éternelle. Et seulement pour la vie éternelle. Or, quel est donc l'objectif que tu t'es fixé et qui te permet de vivre pour le Seigneur? Si c'est l'objectif éternel, cela verra donc dire que les choses de la terre vont pâlir devant tes yeux. Et ces choses de la tête, tu les regarderas comme la boue, parce que dans les royaumes de Dieu, tu n'auras pas besoin des choses de la terre. Et c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure que ceux du monde, ils font de l'abstinence. C'est pour ça que nous avons dit que, quand vous dites, je ne commets pas l'adultère, il y en a plein dans le monde qui ne commettent pas l'adultère. Allez dans l'hindouisme, allez dans le vakéisme, ils sont nombreux, ils ne commettent pas l'adultère. Ils sont nombreux qui ne volent pas. Ils sont nombreux qui font des méditations transcendantales, qui marchent dans une certaine loi de vie, dans une certaine loi comme ils appellent cosmos. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'un chrétien dise qu'il ne commet pas l'adultère ou qu'il ne vole pas. Mais maintenant, la différence entre le chrétien et eux, ça veut dire que leur vie est totalement consacrée à Dieu. C'est une vie qui est un rayonnement de Dieu sur la terre et qui a pour objectif le royaume de Dieu. Et quand eux font les choses, c'est par rapport à la terre. C'est par rapport aux gloires de la terre. Comment vivre une vie de consécration? La première chose, c'est quel est ton objectif que tu t'es fixé? Pendant que tu es enfant de Dieu, si ton objectif, c'est que Dieu te donne les choses de la terre, alors tu ne peux pas être consacré pour le Seigneur. Puisque les choses de la terre t'amènent à vivre par rapport à la terre et les choses du ciel t'amènent à vivre par rapport au ciel, c'est donc le premier la première chose qui t'amène à vivre la consécration, l'objectif. Et quand tu es fixé aux choses de la terre, par rapport aux choses des cieux, là où Christ habite, ta vie sera la prédication de l'évangile. Ta vie sera la manifestation de l'amour de Dieu auprès des frères. Ta vie sera une vie de prière, une vie de communion avec le Seigneur qui est doublée de la haine du péché. Parce que ce ne sont pas les gloires de la terre. Tu peux être même très pauvre, mais tu seras tellement heureux à être avec le Seigneur, heureux à marcher avec le Seigneur. Et pendant que les autres se définissent par rapport aux richesses du monde, toi, tu te définis par rapport aux gloires célestes. Ce n'est pas la guérison qui t'intéressera. Ce n'est pas les démons qui sont chassés qui t'intéresseront, mais c'est ton intégrité. C'est ta communion avec le Seigneur qui t'intéressera. Et là, ce matin, encore chez nous, dans la méditation matinale, nous avons lu le livre de Job. Nous avons vu combien Job avait la haine du péché. Elle était tellement grande que quand ses enfants avaient fini de faire une fête, il pouvait seulement imaginer que ses enfants ont péché. Alors, il fallait faire un sacrifice par rapport à la sanctification, à la vie. Et quand on dit intègre, ça veut dire que tu ne trouvais aucun mensonge dans la vie de Paul. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont des menteurs. C'est des gens qui vivent dans le mensonge. Tu pourras rarement, et ils mentent pour n'importe quoi. Pour un rien, ils te larguent un mensonge. Donc en fait, la première chose qui t'amène à vivre une vie de consécration, c'est l'objectif. C'est où tu pars, pourquoi tu vis. Pour les choses de la terre, la deuxième chose que nous voyons dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27, c'est « Ne savez pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais un seul remporte le prix, la volonté du succès. » La volonté de réussir avec le Seigneur. Devant moi, j'éloigne tout ce qui me sépare du Seigneur et tout ce qui peut m'empêcher d'être dans la communion avec le Seigneur, je m'en sépare. Que ce soit un ami, que ce soit même mon époux ou mon épouse. C'est-à-dire quoi? Ça, je parle d'une séparation spirituelle, pas d'une séparation physique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut divorcer. Je ne serai jamais entraîné par mon mari ou par ma femme à un mensonge, à quelque chose qui va m'amener à salir ma vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Dans cette volonté du succès, cette volonté de réussir, d'être dans une communion véritable avec le Seigneur, cette volonté de recevoir les couronnes que le Seigneur nous a données. Or, cette volonté de succès n'est pas dans la tête de beaucoup de personnes. Ce qui nous plaît, comme je disais tout à l'heure, c'est vivre notre vie chrétienne sur la terre. Le succès de notre vie chrétienne sur la terre. Mais là, vivre ce succès par rapport au royaume de Dieu, ce n'est pas beaucoup la volonté des enfants de Dieu. Donc la deuxième chose, c'est la volonté du succès. Et quand je parle de la volonté du succès, vous allez donc voir que si vous êtes dans cette volonté du succès, vous ferez l'analyse de chaque chose qui est en face de vous pour vous assurer que dans cette chose, il n'y a pas de péché. Pour vous assurer que cette chose ne vous éloigne pas de la volonté du Seigneur et de la pensée du Seigneur. Le troisième élément que nous allons donner ici, c'est le sacrifice. Comme nous avons dit tout à l'heure, tout ce qui était pour moi comme un gain, tout ce qui combatte s'impose toute espèce d'abstinence. Tout ce qui était pour moi comme un gain, je regarde comme la boue. Je me rappelle dans mes premiers pas de la vie chrétienne, j'ai toujours aimé le Seigneur, j'ai beaucoup aimé le Seigneur. Et un jour je me réveille, j'aimais les chansons du monde, mais surtout tout ce qui était musique instrumentale. Je n'aimais pas la musique que parler. Et j'écoutais beaucoup Paul Moria. Mais je me rendais compte qu'après être devenu chrétien, quand je me lève le matin, je fredonne Paul Moria. À midi, je fredonne Paul Moria. Le soir, je fredonne Paul Moria. C'était vraiment dans ma pensée, dans ma tête. Effectivement, j'avais tellement écouté Paul Moria que ce n'est que ça qui revenait. Un jour, je me suis levé, j'ai pris toutes les cassettes, je les ai détruites et j'ai jeté. Gloire au Seigneur, parce que c'est à ce moment que j'ai rencontré une équipe de jeunesse en mission qui venait de la Suisse. Et ils m'ont vendu leurs CD, les cassettes plutôt de jeunesse en mission. Et là, je les écoutais jour et nuit. Et heureusement que les cassettes de Jeunesse en Mission de ce temps, ce n'était que la Bible chantée. C'était surtout des versets de la Bible qu'ils reprenaient. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne refuse pas que les gens chantent très bien. Mais nous, quand on suivait Jeunesse en Mission de ce temps, tu étais sûr que tu avais beaucoup, sur 5 chansons, tu avais 4 chansons qui ne te parlaient que des versets de la Bible. Et tu pouvais réciter des versets de la Bible en chantant Jeunesse en Mission. Ah, ça fait qu'après 3 mois, je ne fredonnais plus aucune chanson du monde. Il n'y avait que la parole du Seigneur qu'il était passé et repassé dans ma tête. Et dans ma vie, j'avais pris tout ce qui ne m'amenait pas à être fixé vers le Seigneur et je m'en étais séparé. Bien aimé, il faut faire une séparation nette de ce qui est de Dieu. Les photos de tes anciens amis, les lettres avec de tes anciens amis, les cadeaux même qu'il t'a donnés, toutes ces choses que le monde t'a offert pendant que tu étais dans le monde, il faut te séparer. Parce qu'il faut te sacrifier de toutes ces choses, et même tes amis. Et c'est pour vous rappeler tout simplement que Israël a fait le veau d'or avec les choses avec lesquelles ils sont sortis de l'Égypte. Israël a fait le veau d'or avec des cadeaux que les Égyptiens leur ont donnés pour le prix de leur souffrance. Parce que Dieu avait touché le cœur des Israélites pour leur donner de l'or, de l'argent, comme étant le salaire de la souffrance d'Israël dans le désert. Et c'est avec ce salaire de la souffrance, en Égypte, salaire de la souffrance d'Israël en Égypte. Ça avait le salaire de la souffrance d'Israël en Égypte qu'ils ont fait le veau d'or. Et vous savez vous-même que les chrétiens partent loin du Seigneur par les choses du monde qu'ils reçoivent. Le travail, l'argent, la voiture et le bien-être qu'ils reçoivent par le Seigneur. C'est avec ça qu'ils finissent par fabriquer les dieux de la terre qui les amènent hors du Seigneur. Dans le deuxième élément qui t'amène à vivre une vie de consécration, c'est le troisième élément, c'est le sacrifice. Un sacrifice total qui t'amène à te séparer totalement du monde et de ce qui est du monde. J'aime Jérémie qui dit, j'ai vécu dans la solitude. Il vaut mieux vivre dans la solitude sans amis et avoir Jésus-Christ seulement comme ami que d'avoir beaucoup d'amis, même parmi les chrétiens, qui ne marchent pas dans la sainteté et dans la pureté. La troisième chose, c'est l'endurance. Au verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai beaucoup aimé cette parole de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui se frappe lui-même quand il commet un péché. Quelqu'un qui se juge lui-même par rapport aux actes. Imaginez un peu l'apôtre Paul qui rentre le soir après avoir passé toute une journée et il commence à repâter tous ses actes, tout ce qu'il a fait devant le scanner du Seigneur. Et chaque fois qu'il trouve un péché dans sa vie, il commence d'abord par se juger lui-même, par se condamner, et puis il commence à traiter durement sa vie de telle manière qu'il ne puisse plus repartir dans la même situation dans laquelle il était au moment où il faisait ce péché. C'est quelque chose d'extraordinaire. Traiter durement son corps, traiter durement sa vie, ne pas accepter dans ta vie qu'un péché puisse entrer, que quelque chose de mauvais puisse entrer dans ta vie, c'est extraordinaire. Ce que l'apôtre Paul vivait, ce que l'apôtre Paul faisait. Voilà déjà quelques éléments bien-aimés qui peuvent t'amener à vivre la plénitude d'une vie de consécration. La plénitude d'une vie de gloire avec le Seigneur. Quand nous regardons 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6, la Bible nous enseigne encore d'autres éléments qui nous permettent de vivre dans la vie de consécration. Nous allons par exemple lire 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6. La Bible dit, permettez, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je pense que le verset que je viens de lire, on doit l'enlever de la Bible. Pour beaucoup de chrétiens, il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous pouvez imaginer combien de chrétiens qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie, des affaires de ce monde. Et l'apôtre Paul te dit, tu ne peux pas être consacré à l'Éternel si tu t'embarrasses des affaires de ce monde. Pourquoi? Parce que le secret que l'apôtre Paul a trouvé avec le Seigneur est que plus tu es focalisé aux choses de Dieu, plus le Seigneur te donne ce dont tu as besoin par rapport à la vie de ce monde. Et je peux vous dire que, bien aimé, j'ai expérimenté cette chose avec le Seigneur, avec l'apôtre Paul. Plus tu fais des efforts pour trouver ces choses, plus tu t'éloignes du Seigneur, plus tu te bats, plus tu souffres et plus tu ne les as pas. Or, quand tu tables ta vie par rapport à ce que le Seigneur a dit, si j'ai de quoi manger et de quoi me vêtir, cela me suffit. Tu vas te rendre compte que tu seras tellement fixé à l'œuvre de Dieu que le Seigneur te donnera vraiment de quoi manger et de quoi te vêtir. Et comme nous l'avons vu plus haut, tu t'es fixé un objectif, le royaume de Dieu. Un objectif, la vie éternelle. Un objectif, être avec le Seigneur. Tu vas te rendre compte que quand tu vivras dans cette abnégation, quand tu ne t'embarrasses pas des choses de la terre, des choses de la vie, tu vas t'embarrasser des choses éternelles et ta vie avec le Seigneur sera une véritable vie de consécration. Et nous aboutirons donc à ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que je ne fais pas un effort pour ne pas être avec les mondains. Ma vie ne s'y prête pas. Je ne peux pas être l'ami d'un mondain. Je ne fais pas un effort, je ne peux même pas discuter sur boire le vin ou ne pas boire le vin. Puisque j'en suis allergique. Étant sacrificateur de l'Éternel, le vin ne fait pas partie de ma vie. La mode ne fait pas partie de ma vie. Ce qui fait partie de ma vie, c'est être habillé. Être habillé pour aller dans le royaume de Dieu, pour marcher vers le royaume de Dieu. Donc en fait, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Et combien de chrétiens s'embarrassent des affaires de la vie? La Bible nous parle donc de l'abnégation. Il faut vivre l'abnégation totale, c'est-à-dire que le refus total d'être pris dans le piège des choses de la terre pour une vie de sanctification et une véritable vie de sanctification avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. En réalité, et si ces souffrances ne sont pas des souffrances spirituelles comme on pense, comme beaucoup de gens vivent aujourd'hui, il y a un démon qui me menace. On m'a toujours posé cette question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? L'autre jour encore, j'étais à une conférence et il y a une sœur qui se lève et dit que pourquoi Jésus a donc dit à Pierre, arrière de moi Satan? Ça veut donc dire que Pierre était possédé. Je lui dis que, mais attends, Pierre, Satan veut dire quoi? L'adversaire. Et Pierre était l'adversaire de Christ à ce moment précis. Christ lui dit, je m'en vais à Jérusalem pour lui mourir. Pierre lui dit, non, il ne faut pas partir. Ça veut donc dire que Pierre s'est mis en adversaire pour empêcher Jésus d'avancer. C'est pour ça donc qu'il était appelé à ce moment précis Satan. Mais Pierre n'était pas du tout possédé. Et comme pour le dire, si je suis possédé, et la Bible déclare que je suis en Jésus-Christ, nous l'avons déjà dit une fois, ça veut dire que je suis en Jésus-Christ avec le démon. Et Jésus-Christ est en Dieu. Donc le démon est dans le chrétien et le chrétien est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en Dieu et le chrétien est caché dans les lieux célestes. Vous pouvez imaginer vous-même combien les chrétiens souffrent aujourd'hui gratuitement parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et ils ne marchent pas avec le Seigneur. Paul dit « souffre avec moi ». Ça veut dire que souffre dans l'œuvre de Dieu, souffre dans le travail, souffre à marcher 50 km à pied pour aller prêcher l'évangile, souffre à manquer de pain, souffre à manquer d'eau, souffre à manquer de tout simplement parce que tu as des âmes que tu dois gagner. Souffre à manquer de quoi te nourrir parce que tu vas exercer l'hospitalité. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ à n'avoir rien pour accomplir la volonté et seulement la volonté du Seigneur qui est le salut des hommes et qui est pour toi la vie éternelle. Oui, bien aimé, combien de personnes souffrent avec Paul et avec le Seigneur pour les affaires du royaume de Dieu. Tout le monde souffre par rapport aux affaires de la terre, par rapport à leur business terrestre. Mais combien de personnes souffrent par rapport aux affaires éternelles. Une chose qui est évidente, c'est qu'il ne faut pas demander aux jeunes d'aujourd'hui de se lever pour aller prêcher l'évangile. La première chose qu'ils vont te demander, c'est l'argent de taxi. Et s'il n'y a pas d'argent de taxi, il ne peut pas faire plus de 5 km à pied. Très peu peuvent le faire. Parce qu'ils ne sont pas consacrés au Seigneur et ils ne savent pas ce qu'il veut. La cinquième chose que nous voulons faire, c'est le respect des règles du jeu. L'apôtre Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 5, il dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Le respect des règles du jeu. Si tu es un athlète et que tu ne respectes pas les règles, tu seras totalement disqualifié. Vous connaissez ces chrétiens qui n'ont pas le temps de méditer, qui sont toujours en train de demander pardon au Seigneur parce qu'ils n'ont pas réussi à méditer, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une étude biblique avec leur famille. Ils sont tellement pris, tellement occupés qu'ils ne respectent pas les règles du jeu. Or, les règles du jeu, c'est quoi? Premièrement, offre ton corps comme un sacrifice vivant, ce qui serait pour toi un culte agréable. Deuxièmement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de faire ce qui est écrit pour que tu puisses réussir sur le chemin de la vie éternelle, la méditation de la parole de Dieu, la prière. Je n'ai pas le temps pour prier. Or, l'apôtre Paul te demande de prier en tout temps et à tout lieu. L'autre jour, nous avons parlé de la méditation ici. La méditation, c'est pas un temps bien précis de la journée. La méditation, c'est partout, à tout moment et en tout lieu. Pendant que tu marches, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu es en méditation avec le Seigneur. Voilà les règles du jeu pour pouvoir vivre une vie de consécration et être à l'écoute du Seigneur, à une écoute véritable du Seigneur. Nous vous parlerons un jour de la prière. Et vous allez vous rendre compte que les chrétiens écoutent moins le Seigneur qu'ils ne parlent au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Nombres chapitre 7 que Moïse, quand il entrait dans la tente d'assignation, il faisait quoi? Il entendait d'abord Dieu lui parler avant que lui ne parle au Seigneur. Mais quand nous nous entrons dans la présence du Seigneur, on commence d'abord par lier les démons. On commence d'abord par dire tous les bienfaits du Seigneur, tout ce que, alors que le Seigneur veut d'abord parler dans notre cœur. Pour que nous puissions découvrir qui nous sommes devant lui à ce moment précis, afin de pouvoir découvrir qui est le Seigneur avec qui nous pouvons parler. Les respects du règle de jeu. La tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quelles sont les règles spirituelles dans lesquelles le Seigneur veut que tu sois? En plus de tout ce que nous avons dit. Et la dernière chose que nous voulons dire, ce soit bien aimé, le travail assidu. Au verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Je vais donner un petit exemple. Vous savez, beaucoup de chrétiens attendent le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah qui va faire tomber les choses du ciel. J'ai connu un frère qui devait voyager un jour, il faisait le Bensky. Et il a demandé à tous les frères de la communauté de pouvoir prendre la moto et de pouvoir conduire la moto. Ils lui ont dit qu'ils ne peuvent pas. Et le soir, ils étaient dans la prière pour demander à Dieu de se révéler et de se manifester puissamment et pleinement dans leur vie. Mais ils ne peuvent pas faire le Bensky. Ils ne peuvent pas conduire le taxi. Ils ne peuvent pas rechercher des enfants de Dieu pour pouvoir faire ce travail. Ils vont vous demander, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Je prends cet exemple pour pouvoir dire que le travail assidu, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Il faut que tu travailles pour le Seigneur, que tu vives la vie de sainteté et de pureté pour pouvoir recueillir le fruit. Bien aimé, ce sont ces éléments que nous voulons nous proposer ce soir, qui nous permettront de vivre une vie de consécration avec le Seigneur. Avoir un objectif, la volonté du succès, une vie de sacrifice et d'endurance, la négation totale par rapport aux choses de la terre, le respect de la vie chrétienne et des règles, et un travail assidu. Que le Seigneur nous bénisse.
96-29-29. Cher ami auditeur, vous pouvez réagir par un SMS ou alors un appel. Votre contribution est la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Afin que nous soyons entièrement et totalement dédiés à toi, à ta gloire, à ta cause, en tout moment et en tout lieu, en toute occasion. Et que véritablement, comme Pierre le dit hein, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, que lorsqu'ils aient à voir nos œuvres, à voir ce que nous faisons, qu'ils aient plutôt à glorifier Dieu en toutes choses plutôt que de nous accuser. Nous parlons de la consécration. Ce soir, chers amis auditeurs, comment peut-on vivre une vie de consécration? Sept éléments qui ont été présentés, qui ont été décortiqués, si on peut le dire ainsi, ce soir. L'objectif que nous assignons dans notre motivation à croire, à devenir chrétien, à marcher avec le Seigneur, également la volonté de réussir avec le Seigneur. Le sacrifice étant prêt à pouvoir abandonner ces choses, se séparer totalement du monde et de ses affaires, l'endurance dans la marche afin que seuls ceux qui auront persévéré comme a dit Jésus-Christ soient ceux qui seront admis. Le cinquième élément, ne pas s'embarrasser des choses de la vie afin de pouvoir rester suffisamment léger, suffisamment apte, suffisamment taillé à la dimension même de ce que le Seigneur agrée pour nous. Et le respect des règles selon que le Seigneur dit que nous ne pouvons pas combattre sans respecter les règles et puis prétendre à la victoire. Et enfin, l'assiduité, la fidélité dans la qualité du travail, la fidélité dans l'exercice de ce que nous avons à faire, la fidélité dans le temps et dans la qualité de ce que nous faisons comme effort, méditation, prière et bien d'autres choses encore. Ce sont ces éléments qui vous ont été présentés ce soir, chers amis auditeurs, pour répondre à cette question, alors pour contribuer à répondre à cette question de la vie de consécration, hein, comment mener une vie de consécration. Nous pensons et nous croyons véritablement que vous avez été bénis au-delà de vos attentes. 77-96-29-29, c'est le code d'accès à cette émission. Vous êtes à l'écoute au rythme de Dieu. Donc, il est possible encore pour vous, chers amis auditeurs, de vivre cette vie de consécration et d'être résolument dédié, abandonné, confié pour la cause du Seigneur Jésus-Christ en ce moment et d'être ainsi des exemples véritables. Noé ?
Je voulais dire qu'il y a un élément parmi les sept qui m'a particulièrement marqué, c'est le sixième, le respect des règles. Il y a, Il y a, je ne sais pas, c'est un proverbe ou un anecdote qui dit que les gens veulent aller au ciel, mais ils ne sont pas prêts à mourir. C'est-à-dire que les gens veulent réussir avec Dieu, les gens veulent faire des exploits avec Dieu, mais ils ne sont pas prêts à respecter les conditions que le Seigneur leur pose. Je ne sais pas si c'est, c'est vous, pasteur Combe, qui racontiez l'histoire de cet homme qui avait vu un serviteur de Dieu avoir fait beaucoup d'exploits, qui a demandé qu'on prie pour lui, qu'il puisse réussir. Et puis dès que le serviteur lui impose la main, il dit que c'est fait le passer par toutes les souffrances.
Et c'était les souffrances. J'ai eu ceci, par un qui passe par là. Après le frère a dit que non, ça va, je ne veux plus.
Donc nous ne sommes pas prêts à endurer ce que le Seigneur veut. Enfin, c'est qui a su le chemin de la gloire avec le Seigneur. On veut en même temps avancer, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, se confondre avec le monde. Pourtant, le Seigneur nous veut dans une vie différente, c'est-à-dire un style de vie qui n'est pas commun au monde. Il dit souvent que le chrétien n'est pas un homme ordinaire, c'est pas un homme normal. Il n'est pas normal dans ce monde. Mm-hmm. Autant les mondains nous voient comme étant des fous, autant ils sont fous. En fait, il y a une contradiction entre leur façon d'être et notre façon d'être. Mm-hmm. Et si nous n'arrivons pas à faire cette différence dans notre vie, ne portons pas le nom de chrétien.
Absolument.
Restons, préférons être comme les Américains appellent les churchgoers, ceux qui vont à l'église. Mm-hmm. Aller à l'église, bon, ce sera peut-être bien pour vous, bon, même si ça ne va pas vous donner la vie éternelle, mais si vous choisissez de porter le nom de chrétien, faites la différence.
Faire la différence, ayez une vie entièrement dédiée, entièrement réservée, soyez mis à part pour celui qui a donné sa vie pour vous et reflétez véritablement ces éléments afin de marquer la différence. La consécration, cher ami auditeur, c'est ce dont nous avons parlé ce soir au courant de cette émission, au rythme de Dieu, c'était sur la fréquence de vie, la 107.8 de la radio Vie Nouvelle. Nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Nous voulons rappeler à l'intention de nos auditeurs et l'ensemble des populations de Douala et surtout du quartier Bilongue, la tenue de cette campagne d'évangélisation qui a commencé lundi passé et qui ira jusqu'en fin de cette semaine avec les porte-à-porte. Mmh. Et à partir de lundi le 11...
À côté de l'ancien étage, à Bilongue, nous aurons des projections de films avec des prédications du soir. Tous les frères qui sont enfants, tous les enfants de Dieu qui sont dans cette zone sont bien invités à pouvoir participer à cette campagne. Et surtout, invitez vos amis et faites le suivi de ces personnes si elles ont donné leur vie au Seigneur. Si vous ne pouvez pas vivre dans l'endurance, nous voulons vous aider à pouvoir le faire. Et nous voulons dire aussi déjà qu'au mois de juillet, nous organiserons un camp de jeûne à Limbé. Mmh. Ce sera un grand camp pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ceux qui le connaissent bien évidemment. Mmh. Ce sera un camp d'excursion avec visite à Sonara et puis dans le zoo et tout.
Beaucoup d'accessibilité, d'attraction et aussi
mais surtout la prédication de l'évangile pour le salut de ceux qui doivent croire. Vous êtes invités.
Absolument. Et nous rappelons également qu'une équipe d'évangélisation est à la disposition de ceux qui voudraient, ceux qui sont, implanter des églises, qui veulent accroître... et fait un travail de fond d'évangélisation au sein de leur quartier ou autour de leurs églises. Il suffit simplement de contacter le pasteur Emmanuel Koum au 94 35 44 54 94 35 44 54 ou alors 70 78 78 87 70 78 78 87 koum01@yahoo.com. C'est la fin de cette émission pour ce soir. Nous vous disons merci, chers amis auditeurs, pour votre écoutez votre fidélité à la prise de son ce soir, Désiré Tchouya, le support artistique, il était assez divers. Sur ce plateau, le pasteur Emmanuel Koum, Noé Ngatchou et Guy Augustin Kentop. Mardi prochain sera certainement un autre jour et que Dieu vous bénisse abondamment.
Au rythme de Dieu, la la communauté CBC Maccabée Israël sous la direction de son pasteur Emmanuel Doum vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le apporté par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30, venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.